BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, Anthony Morel.
Bonjour à tous, bienvenue dans De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end. On est ravis de vous retrouver pour décortiquer, éplucher ensemble l'actualité tech de ces derniers jours, que vous nous consommiez à la radio, à la télé, sur Internet, YouTube, les plateformes, podcasts, ce que vous voulez. En tout cas, communiquez avec nous, on a le hashtag DQJMM, vraiment, envoyez-nous des messages, critiquez l'émission, en bien ou en mal, tout ce qui est constructif, on le prend. Donnez-nous des idées de sujets aussi, on est toujours intéressé par avoir toutes vos suggestions. Alors vous aurez remarqué que c'est pas François cette semaine, il est en vacances. On l'embrasse parce que je sais qu'il nous écoute, mais pour le reste, vos habitudes ne changent pas. Deux parties, on sera tout à l'heure avec Lionel Costa. Tiens, Lionel Costa, on va parler de la Coupe du Monde de foot. Quel rapport avec la tech? Les télés, évidemment, les gens s'équipent en télé à l'occasion de la Coupe du Monde. Comment bien choisir une bonne télé? On va faire le benchmark avec Lionel du Labo Fnac. On aura aussi notre petit module bonus, le petit bonbon supplémentaire pour ceux qui sont avec nous en audio. Et puis on va commencer avec le club de la presse IT. De quoi je me mêle? C'est parti!
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.
Le club de la presse IT. Alors là, on a du lourd cette semaine. Je vous le dis, les amis.
Au sens propre.
Ouais. Non, pas au sens propre. Mais commencez pas. Non, commencez pas à vous sous-vendre parce que je voulais vous hyper un petit peu, les amis. Non, pas que d'habitude, on n'est pas du lourd. On a toujours de la qualité dans le club de la presse IT. Mais là, cette semaine, c'est, j'allais dire, des piliers de la presse tech française. Voilà, des gens qui sont là depuis longtemps et qui sont très sérieux, qui enquêtent. Emmanuel Paquette, à ma droite. Salut, Emmanuel. Qui est un habitué de l'émission, journaliste à l'Informé, qui est passé par l'Express, les Échos également. Voilà. Bien bon. Ah oui, attends, moi je fais la bio. Hein, moi, t'es là, je fais la bio. Qui enquête sur tous les sujets, les GAFAM, les telcos, les médias. Voilà. Spécialiste de la tech évidemment. Et puis à ma gauche, Guillaume Gralet. Salut Guillaume.
Bonjour.
On est ravis de t'avoir. C'est la première fois que tu viens dans l'émission. Donc vraiment super content de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on essaye de te faire venir. Journaliste tech au Point, depuis longtemps également. Et alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Guillaume, l'une de ses particularités, c'est qu'il a interviewé à peu près tous les grands noms de la tech. Ça, c'est un truc de fou. C'est le seul Français qui a fait ça. Il t'en manque encore? Tu les as tous faits, là, quasiment?
Non, mais bien sûr que oui. Et puis, non, puis surtout, ce que j'adore, c'est rencontrer les gens qui ne sont pas encore connus, mais qui méritent de l'être. Ouais. Mais c'est vrai que le secteur est super intéressant parce que ça bouge dans tous les sens. Il y a des fous, il y a des tarés, mais il y a aussi des gens très intéressants. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne pensent pas tous la même chose. C'est ça que je trouve intéressant.
Et alors, on peut le retrouver d'ailleurs dans un livre que tu viens de publier qui s'appelle Pionnier, où tu racontes un peu les hommes et les femmes qui font l'intelligence artificielle et où tu as rencontré plein de grands noms du secteur. Quoi, il y a Sam Altman, des
gens
comme ça.
Oui, alors les plus connus, effectivement, Elon Musk ou Mark Zuckerberg. Dario Amodei, dont on parle de plus en plus.
Ouais.
C'est le créateur d'Anthropique, la maison mère de Claude. Et puis tous les Européens qui ont quitté les Big Tech pour lancer leurs propres aventures, c'est assez intéressant. Ouais. Des Chinois, le créateur de Huawei, Kai Fu Lee, un Taïwanais très intéressant. Et aussi beaucoup de choses, ça qui m'impressionne, j'ai la chance d'y aller régulièrement, des créatrices, des scientifiques africains qui, notamment à travers les conférences Indaba, inventent une IA très intéressante. Ça fait 7 ans que ça dure, à chaque fois c'est dans une capitale africaine différente. Abidjan, Dakar et bientôt à Lagos, au Nigeria. Et ce sont des recherches ouvertes, publiques, au service des humains, des inventeurs et qui n'est pas considéré comme une religion. Bref, c'est assez rafraîchissant d'y aller.
Hyper intéressant tout ça. Bon, à retrouver dans ton livre. Et c'est vrai que l'une des... On ne va pas faire une heure là-dessus, mais c'est intéressant de voir aussi ton approche. C'est-à-dire que tu y vas aussi parfois un peu au culot pour aller rencontrer ces grands patrons de la tech. Je t'ai entendu dire que, par exemple, à l'époque, alors il y avait quelques années maintenant, mais Steve Jobs, genre, t'es allé toquer à sa porte.
Oui, ce n'était pas prévu. C'était à la fin d'une enquête où j'avais pu voir des gens absolument géniaux, tu sais, comme Bill Atkinson, qui avait joué un rôle assez dingue dans le Macintosh. Et effectivement, j'avais pu retracer pas mal de choses. Et je trouvais ça dommage de ne pas lui donner la parole, d'avoir son point de vue. Et c'est, je pense, 4 heures avant de prendre l'avion. Effectivement, j'avais toqué à sa porte. Et c'est sa femme, Lorraine, qui m'avait répondu, qui avait été très sympa. Voilà.
Effectivement, t'avais pris un vent quand même. T'avais pas eu l'interview.
Exactement. Bon, ça m'est souvent arrivé de me prendre des vents.
Ouais, mais au moins, t'as pas de regrets. C'est ça.
Non, mais je pense que c'est important parce que si tu veux, c'est une technologie. On est un peu comme des petits lapins face à des phares de voiture parfois. Ça nous impressionne par ce que ça permet de faire. Mais je pense qu'on a besoin d'explications sur vers où on va. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de faire parler tout le monde.
Hyper intéressant tout ça. Alors, on a plein de sujets à aborder, les amis. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de lunettes connectées. Alors, pas sur les nouveautés, forcément, ou les rumeurs, comme on le fait régulièrement, mais sur le côté social, c'est vrai qu'elles envahissent l'espace public. Est-ce qu'il faut les réguler, voire les interdire? La CNIL commence à tirer la sonnette d'alarme sur le côté voilà, respect de la vie privée, risque d'espionnage. Ça va être un des sujets qu'on va aborder. On va parler, alors, parler de caméras dans les lunettes, il faut s'y habituer, mais il y aura peut-être aussi des caméras dans les écouteurs, dans les AirPods, d'ici quelques années ou quelques mois. Apple travaille sur le sujet. On va se demander pourquoi. On va parler de Samsung qui se fait attaquer en justice, alors pas par un de ses concurrents, mais par Dua Lipa, par la chanteuse Dua Lipa. On va vous expliquer pourquoi. Vous allez voir, c'est une histoire assez rocambolesque, plein de sujets. Mais je voulais qu'on commence par parler de robotique humanoïde. C'est un sujet qui, moi, me fascine. Je sais qu'il vous fascine aussi, parce qu'il y a deux vidéos qui m'ont vraiment fait halluciner ces derniers jours. Et je voulais absolument qu'on les commente. La première vidéo, c'est une vidéo d'une entreprise que je ne connaissais pas, moi, qui s'appelle Genesis AI. Ils ont publié une vidéo de mains robotiques, donc deux mains avec des gants noirs, qui ont un niveau de dextérité absolument dingue et où on les voit résoudre un Rubik's Cube, jouer du piano comme un virtuose, préparer une omelette. C'est assez spectaculaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, là, ces images? On va commencer avec toi, Emmanuel. Quand tu as vu ces images qu'on fait le tour des réseaux sociaux, tu t'es dit quoi?
Alors moi, je l'ai vu la première fois sur les réseaux sociaux, effectivement, parce que c'était poussé par Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, qui aujourd'hui est un investisseur dans la Silicon Valley. Et puis, pousse des technologies autour de l'intelligence artificielle. Il est très impliqué dedans. Il a même coécrit des ouvrages sur le sujet. Moi, je me méfie des images comme ça, pour avoir lu pas mal d'articles dans la presse américaine où justement plusieurs journalistes américains ont testé des robots humanoïdes, les ont même pris chez eux pendant quelques temps en faisant une semaine de tests comme tous les journalistes high-tech peuvent le faire. Ils se sont tous rendus compte quand même qu'entre les images qui sont présentées comme celles-là, qui sont contrôlées, qui sont sans doute avec des interventions humaines, parce que c'est là-dessus en fait où il y a toujours une forme de brouillard, c'est-à-dire on a l'impression quand on voit un robot comme ça qu'il est full autonome, qu'il fait tout seul, qu'il est doté d'une super intelligence d'une certaine façon. La réalité, elle est toujours moins shiny, enfin moins brillante que ça, quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on avait aussi les premiers assistants personnels chez nous qui répondaient très très bien à certaines requêtes, on s'est aperçu assez vite qu'en réalité, certes, il y avait un algorithme, mais il y avait un humain de temps en temps qui était derrière qui répondait. Et là, en fait, dans pas mal de démos, on se rend compte qu'il y a quand même des humains qui ont pris la main sur les robots pour leur permettre de faire ça. Alors, ça n'enlève rien à ce dont tu parlais précédemment, c'est-à-dire la dextérité des doigts, les mouvements qui sont faits de manière fine. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est totalement autonome? Ou est-ce que c'est mi-autonome, hybride, avec un humain derrière qui est aux commandes? Et c'est là, en fait, où il y a de temps en temps ce qu'on appelle un overhype, c'est-à-dire que, comme tu nous as survendu un peu tout à l'heure...
Ouais. Non, dis pas ça.
On survend un peu les technologies, on survend un peu les robots humanoïdes aujourd'hui.
Ça, c'est vrai. Moi, j'ai tendance à me laisser un peu emballer par ces démonstrations. Mais c'est vrai, parce qu'on a envie d'y croire aussi. Mais tu as raison sur le fait que parfois, quand on revient à la réalité et qu'on voit ces robots en conditions réelles, on tombe un petit peu de l'armoire. Je me souviens d'une démo lors du dernier CES, avec qui était aussi Guillaume. Ouais. Tu avais vu le robot LG? Tu sais, le robot humanoïde qui était censé, je sais pas quoi, faire la cuisine, plier le linge et tout. Et en fait, le truc, il avançait à deux à l'heure.
Ouais, c'est ça,
je disais, jamais j'aurais ça chez moi.
Fallait pas avoir faim trop vite ou pas être trop pressé, effectivement. Mais effectivement, donc c'était surtout la promesse de faire tous les travaux, tous les ménagers, faire la vaisselle, etc. à notre place. Donc on disait, c'est un instrument absolument génial de libération de la femme ou de l'homme. Tout dépend des foyers, mais effectivement, la promesse était peut-être un peu trop belle. Alors, moi, je me suis baladé il y a très peu de temps avec à côté d'un robot Unitree. Effectivement, j'étais assez impressionné de la vitesse, les mouvements, effectivement, qui peuvent peut-être sublimer d'ailleurs les mouvements humains, l'équilibre. Il pouvait même courir, mais en fait, il ne pouvait pas courir s'il n'y avait pas quelqu'un derrière lui qui mimait mes gestes à moi et qui avait une télécommande. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore l'autonomie. Ce qui est assez rigolo, je trouve, quand on s'intéresse au progrès des robots humanoïdes, ce qu'on a fait récemment dans un numéro du Point, en fait, où on a décomposé, c'est assez rigolo, la figure d'un robot, et on voit les progrès qui sont faits, par exemple, sur la peau, sur les cheveux, sur les yeux, sur les genoux. Eh bien, on voit à quel point, et c'est bien de le rappeler aussi, la personne humaine, elle est juste absolument fantastique, j'ai envie de dire, totalement unique. Ouais. Les travaux sur la main, c'est les travaux quasiment les plus difficiles à réaliser. Il y a quand même des prouesses. On l'a vu avec un récent robot Optimus, lorsqu'il pouvait prendre un œuf, en fait, sans le casser.
Ah là, on le voyait aussi avec Genesis, hein, c'est ce qu'il fait. Hein.
Exactement. La bonne nouvelle de Genesis, c'est que ce sont des chercheurs français, ça se passe en France, ça fait partie de l'école robotique.
Ça se passe pas mal aux États-Unis, quand même.
Aux États-Unis, ouais.
Mais c'est un Français qui est à l'origine de ça. Ouais.
Voilà, c'est ça. On le voit aussi avec UMA, donc il y a un autre projet français, UMA, qui est Rémi Cadenne, entre autres, qui sont très intéressants à suivre. Mais on voit encore tout le travail qu'il y a derrière, et effectivement. On ne pourra pas, on n'a pas encore ce robot qu'on pourra laisser en lui disant bah, écoute, fais la cuisine pour nous, range tout et on revient dans une demi-heure.
Mais ça qui est intéressant, parce qu'effectivement, quand tu vois bah, sur les grands salons tech, maintenant, tu as des spécialistes de la robotique qui sont par morceaux de robots. C'est-à-dire, tu as celui qui travaille sur l'intelligence générale, tu as celui qui travaille sur effectivement la main avec un niveau de dextérité incroyable, celui qui travaille sur la peau, celui qui travaille sur les muscles. Enfin, c'est vraiment ça. Et tu te dis, quand on va réussir à combiner tout ça, on aura quelque chose d'extraordinaire. Là où je vous rejoins, les amis, c'est que ça va probablement prendre du temps. Mais moi, cette vidéo, quand même, de Genesis, elle m'a vraiment impressionné parce que j'avais déjà vu des robots avec un niveau de manipulation fine assez avancé, mais j'avais jamais vu à ce point-là. C'est-à-dire que là, je me suis dit, donc ils ont des gants noirs pour ceux qui nous écoutent et pour les autres, vraiment, venez nous voir, regardez les images sur Internet parce que ça vaut vraiment le détour. Si tu dis pas que c'est un robot, à la limite, tu pourrais presque croire que c'est un humain qui manipule, encore une fois, l'œuf ou le Rubik's Cube, qui résout le Rubik's Cube. Et ça, moi, j'ai trouvé ça fou. J'avais jamais vu ça avant.
Non, mais c'est absolument bluffant. Moi, la vidéo, je l'ai revue 3-4 fois. Je trouve ça dingue. Il y a une petite chose qu'il faut à laquelle on doit faire attention, je pense, quand on regarde des robots humanoïdes. C'est un, leur autonomie. Bon, là, c'est pas un problème. Mais c'est surtout le poids des mains. Je pense à Ludovic Righetti, en fait, qui est professeur en robotique à l'Université de New York, qui était un très bon ami de Yann Lequin. Yann Lequin m'avait dit, tu devrais essayer de le rencontrer, de le faire parler.
On en parlera tout à l'heure, ce sera le petit bonus, parce que tu as rencontré Yann Lequin, et donc restez bien jusqu'au bout avec nous.
Oui, et en fait, il disait, faire des mains, je reprends ces termes, qui fassent, qui soient aussi précises que la main humaine, à un poids comparable à celui d'une main humaine, ça reste encore un vrai défi. Et lorsqu'on voit la démonstration en cuisine, on voit que les mains sont accrochées. Ce n'est pas encore un robot humanoïde qui les porte.
Ah,
donc ça sera peut-être un défi à relever plus tard.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette IA, parce qu'en fait, ce n'est pas tant les mains que le cerveau des mains, j'allais dire, ou l'intelligence artificielle qu'il y a derrière. Le cerveau des mains, oui. l'IA, on va dire, qui fait tourner ses mains, qui a été conçue par Genesis. Et ce qu'ils expliquent, c'est que contrairement à des robots qu'on va programmer pour réaliser une tâche, c'est une IA qui va en fait apprendre en regardant faire les humains. Donc on lui montre des milliers d'heures de vidéos, par exemple, de quelqu'un qui fait une omelette, et il est capable de reproduire ça. Et c'est ça, en fait, la grande nouveauté, c'est qu'on va pouvoir avoir des robots multitâches qui vont être capables, en fait, par mimétisme, de faire comme ce que font les humains, en fait.
Oui, c'est ça, mais c'est un peu comme les modèles de langage aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils apprennent de nos requêtes, ils apprennent à nous connaître mieux, et en fonction de ça, ils adaptent leurs réponses. Donc ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Ça arrive effectivement sur le robot. Et comme tu le disais, ce qui est nouveau aujourd'hui, parce que les robots, ça fait très longtemps que ça existe. Hein. Il y avait Aldébaran chez nous en France, qui a fait malheureusement faillite, hein, qui était de Bruno Maisonnier, qui avait été notamment racheté par SoftBank, le japonais SoftBank, à un moment donné. Et son objectif à lui, il l'avait clairement annoncé déjà à l'époque, c'était de se dire, c'est le nouveau smartphone. C'est-à-dire, en gros, vous avez un robot qui sera chez vous, vous paierez un abonnement à l'acte, tous les mois, et en gros, bah, il fera ce qu'on pourra lui demander de faire, c'est-à-dire de la cuisine éventuellement, du laver la vaisselle, faire votre repassage, etc. Ça, c'était déjà annoncé et vu depuis très longtemps. Après, ils se sont heurtés à des défis technologiques. La main, effectivement, et il l'a dit très vite, hein, c'était le sujet numéro un, la main. Surtout la force aussi de pression qu'on peut exercer
sur
un œuf, sur un verre, hein, quand on doit laver un verre pour ne pas le casser. Donc, effectivement, il y avait pas mal de choses là-dessus. Là, en fait, là aussi où je suis un petit peu méfiant, c'est que les Américains communiquent beaucoup avec des images, etc. Et en réalité, quand on écoute Elon Musk, il dit « Mais attendez, en fait, nous, on est à la ramasse, les Américains. Il y a beaucoup plus avancé que nous, ce sont les Chinois.
Ouais. »
Sauf que les Chinois, eux, ils montrent moins, ils font moins de marketing.
Unitree en fait beaucoup.
C'est vrai qu'ils ont fait. Mais là, le Wall Street Journal disait qu'il y avait 140 sociétés en Chine qui travaillaient sur des robots humanoïdes. On ne sait pas ce que font la totalité des 140 entreprises. Et surtout, c'est là où on voit le rouleau compresseur chinois, le gouvernement subventionne le fait d'acheter un robot humanoïde.
Ah
donc
oui.
En fait, vous avez un rabais. Ils veulent refaire ce qu'ils ont fait dans les voitures électriques. C'est-à-dire quand vous étiez un Chinois et que vous vouliez vous équiper de voitures électriques, c'était le cas aussi de Tesla aux États-Unis, hein, cela dit. Le gouvernement vous offre un rabais pour vous équiper plus rapidement. Ils se disent que là, la Chine a un coup à jouer, puisque tous les robots qu'on voit américains, ils sont quand même équipés de capteurs chinois, de technologies chinoises. Et donc, ils se disent, nous, il faut qu'on prenne le lead là-dessus, parce qu'on sera dans le robot, soit le robot chinois qui sera vendu chez les gens, chez les particuliers, mais au pire, on sera le fournisseur des robots américains qui seront installés partout sur la planète. Donc, quoi qu'il arrive, les Chinois seront là. Et donc, c'est vrai qu'on s'étonne, on se dit, mais c'est formidable, etc. Franchement, il faut faire attention à la Chine.
L'importateur des robots Unitri en France qui m'expliquait qu'il avait visité du coup la Silicon Valley chinoise du côté de Shenzhen, où il y a une sorte de robot valet. Absolument incroyable. Moi, je rêve d'y aller. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion ou si vous avez l'occasion d'enquêter là-bas, peut-être, les amis. Mais franchement,
nous,
ça doit être dingue.
Mais à l'époque des télécoms, c'était pour Huawei.
Oui, moi aussi, je suis allé à Huawei. Mais là, maintenant, j'aimerais bien y aller pour voir les robots et les laboratoires. Alors, la deuxième vidéo, on la voyait à l'instant, et je te donne la parole juste après, Guillaume. C'était une vidéo de Figure AI, qui est une autre entreprise très en vue, pour le coup, américaine de robotique, où on voit des robots qui font une chambre. Comme dans un hôtel, les femmes de chambre qui passent. Là, deux humanoïdes qui entrent dans la chambre, qui se mettent à tout ranger, à remettre la chaise en place et qui font le lit. Alors, faire le lit, c'est un peu comme l'histoire de l'œuf, en fait. C'est vraiment une matière molle. C'est très, très compliqué à appréhender pour un robot. Donc là aussi, il y a effectivement...
Pour certains humains aussi,
probablement pour certains humains aussi, c'est vrai. Ouais. Mais c'est impressionnant, ça aussi.
Oui, pour la petite histoire, j'ai été licencié une seule fois dans ma vie, je touche du bois. Mais je faisais du ménage dans un hôtel à Londres. Et j'allais pas assez vite pour faire le lit. Donc c'est quand même tout un art, en fait.
Oui, bien sûr.
Et en fait, donc on m'a dit, tu te ferais mieux. Donc, finalement, j'ai terminé dans un fast-food, ça s'est très bien passé. C'était plus facile pour moi. Mais effectivement, faire le lit de manière rapide, parce qu'en fait, c'était très cadencé. Je me rappelle, les hommes et les femmes de ménage avaient un temps limité. C'est excessivement difficile. Effectivement, je partage votre admiration, fascination pour la Chine. Effectivement, plus de 100 fabricants. Les robots de vallée où, en fait, vous avez des humains avec des casques de réalité virtuelle, en fait, qui vont mimer des mouvements qui sont reproduits par les robots. C'est un peu ce que font les petites mains au Kenya lorsqu'ils apprennent, en corrigeant la langue, les progrès de ChatGPT. Ici, c'est fait par des humains qui apprennent littéralement à des robots.
Là, tu montres le geste au robot.
C'est ça. Et effectivement, et tu vas le corriger, tu vas le faire des centaines, des milliers de fois parfois.
C'est dingue.
Et là, ce qui est assez intéressant dans cette démonstration de figure, en fait, c'est que les deux robots ont l'impression d'être synchronisés, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent en permanence au mouvement de l'autre. Et ça, je trouve que cette interaction avec son environnement est assez intéressante.
Après, pour ceux qui voient les images, le lit n'est pas fait au carré non plus. Hein. C'est vraiment là, pour le coup, c'est je prends la couette, je mets la couette, je rabats. C'est pas non plus, je pense que l'art, comme tu disais, de bien faire un lit, on n'y est pas encore tout à fait, mais on va y arriver. Moi, c'est ce qui me frappe, en fait, à chaque fois, c'est quand même les avancées. Et je suis complètement d'accord avec vous sur le fait qu'il y a des démos qui sont embellies, pour ne pas dire truquées. Mais on a vu, on en parlait la semaine dernière dans De quoi je me mêle, le robot pongiste, par exemple, de Sony, là, ce bras robotique, qui, pour le coup, dans des conditions réelles, c'est-à-dire arbitré par un arbitre international de tennis de table et en respectant les règles, bat des professionnels de tennis de table. Et là, je me dis, en fait, quand je compare avec ce qu'il y avait il y a 3 ou 4 ans encore, où je pouvais battre un robot, moi, de tennis de table, ça va à une vitesse folle. Et ça va être exactement la même chose dans les robots humanoïdes. Alors, je ne sais pas si on peut prendre des paris, mais voilà, quel moment, à quelle date, on pourra avoir la commercialisation et vraiment le robot humanoïde à la maison. Est-ce que ce sera dans 5 ans, dans 10 ans? Je ne sais pas, vous avez une estimation, vous, ou pas?
Ah bah non, mais les premiers... Alors, je crois que c'est JP Morgan qui estime qu'il y aura 100 000 robots humanoïdes vendus dès cette année dans le monde.
Ouais, donc mais là, c'est pas au point.
Ça commence.
Franchement, moi, j'en prends pas chez moi, là, aujourd'hui. Je suis sûr qu'il fait... Vraiment, c'est une catastrophe.
C'est une catastrophe, ouais. Oui, mais ils sont obligés de commencer à en vendre pour justement se faire de l'expérience, du retour client, pour améliorer leur robot. Donc, on est vraiment, effectivement, comme tu le disais au début. Et puis, il faut pas oublier aussi un autre élément, c'est que Elon Musk, avec Optimus, dans son package dans lequel il va toucher 1 000 milliards de dollars, il y a différents objectifs d'ici à 2030. Il doit atteindre différents objectifs. Et l'un d'entre eux, c'est de vendre 1 million de robots Optimus d'ici 2030. Ouais. Donc, il a cet objectif clair. Il a dit que... Donc, on sait aussi que les startups, etc., ils sont tous motivés à rentrer sur ce marché, à en vendre le plus possible, soit sous forme de location, soit nu, un peu comme votre téléphone. Hein. Vous pouvez l'acheter nu ou en location... Là, les premiers, c'est 20 000 dollars, je crois. Qu'on peut...
Chez Unitri, t'en as moins cher. T'as 5 ou 6 000 dollars en modèle de base.
Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait pour ça?
C'est ça. Après, il faut ajouter les briques supplémentaires.
Ouais, c'est ça, exactement. Et en location, c'est de l'ordre de 500 dollars par mois. Voilà.
Ouais,
donc, 500 dollars par mois, faut pouvoir les sortir. Et puis, comme le disait Guillaume, ils font encore des choses, mais très lentes, etc. Mais bon, malgré tout, on voit que c'est le démarrage. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Mais... le nombre de start-up et le fait que Elon Musk soit motivé, entre guillemets, à en vendre 1 million d'ici 2030 fait qu'on va voir des choses débarquer assez rapidement.
Ouais, et puis Musk, je ne sais pas si tu en as parlé avec lui, mais il y a vraiment un enjeu civilisationnel derrière pour lui. C'est vraiment l'idée que demain, le robot pourra tout faire mieux que nous et que du coup, il faut qu'on repense un sens à notre vie, quoi.
Bah, c'est ça, en fait. Est-ce qu'on va réussir à vivre avec une nouvelle personne chez nous, en fait? Bon, on le voit bien, moi, je l'ai vu il y a 2 ans quand j'ai pris un chat chez moi. Non, mais c'est beaucoup. Non, mais c'est un être vivant.
Un vrai chien, ouais, c'est ça. Un spot, mais j'ai mis des poils dessus.
Non, mais c'est pareil. Si tu veux, là, quand même, on va avoir un être vivant qui est, en tout cas, un nouvel être mouvant qui va être chez nous. Et moi, ce qui me fascine, effectivement, c'est un, comme tu parlais de ce choc civilisationnel que prédit Elon Musk, c'est de pas être, d'avoir le syndrome de la planète des singes, c'est-à-dire de voir quelqu'un qui fait mieux les choses que nous et de plus rien faire, tout simplement. On voit ça aussi avec l'IA. Et puis surtout, je pense qu'il y a 2 sortes de robots humanoïdes. C'est-à-dire, il y a les robots humanoïdes, on voit bien là, qui sont à notre service, hein, qui correspondent à l'étymologie du mot robot, inventé en 1920 par l'écrivain tchèque de théâtre, Robota, esclave, etc. Et puis, il y a ces robots dont on se demande si on ne cherche pas tout simplement à répliquer tout simplement l'homme. Tout à l'heure, tu parlais d'un robot que tu avais vu au CES avec une peau quasi humaine.
Ouais, Realbotix, voilà. Incroyable. C'est vraiment avec une peau en silicone, des cheveux, des yeux, et qui réplique au le plus près possible l'être humain, sans y arriver parfaitement, parce qu'il y a toujours cette vallée de l'étrange, hein, dont on
c'est
parle
ça.
Beaucoup. Où plus on essaye de faire en sorte qu'un robot ressemble à un humain, et plus il y a un malaise qui se crée, parce qu'on voit bien que c'est une machine, en fait.
Et puis, tout simplement, ce petit robot qu'on a décidé de mettre en une du point.
Il est fort.
Non, mais,
je voyais tout à l'heure, depuis tard, il préparait. Je voyais qu'il s'approchait.
C'est notre Bernard Tapie à nous.
Ah, très, très fort.
Non, mais c'est intéressant, parce qu'effectivement, on a eu tout un débat, parce qu'effectivement, ça crée une gêne, mais ce robot, donc il y a une apparence un peu humaine, bon, heureusement, on se rend bien compte que ce n'est pas vrai, mais il y a une température entre 31 et 35 degrés, c'est-à-dire, pourquoi...
À la surface de la peau, tu veux dire?
À l'intérieur du corps.
Ah bon?
C'est pourquoi on veut doter les robots d'une température comparable à la nôtre. Je me dis, là, on perd un peu pied, c'est-à-dire qu'un robot... qui nous rend des services, même si peut-être un jour on travaillera sur le droit des robots, l'interdiction de leur faire du mal, etc. Je pense que ça va venir. Mais pourquoi...
Et le revenu universel aussi, il y a toute la question économique derrière. Enfin,
exactement. Pour les humains, si jamais ils perdent leur job. Mais pourquoi il faut absolument donner aux robots notre apparence? Voilà. Je pense que c'est une question philosophique qui est assez intéressante à soulever.
Ouais. Alors après, on ne va pas entrer forcément là-dedans, mais il y a aussi tout... Parce qu'on sait bien que c'est l'une des industries qui adopte le plus vite les technologies. Il y a toutes les industries du porno, etc., qui sont très intéressées aussi par les robots, sexbots, robots compagnons et autres. Mais non, mais c'est un sujet aussi. Hein. Je pense que c'est un marché qui est absolument considérable. Et là, pour le coup, avoir le robot le plus réaliste possible avec la température corporelle, le machin, les capteurs et tout ce que tu veux, je pense que ce sera aussi un sujet dans les années qui viennent. C'est un peu flippant. Ouais, c'est un peu
flippant. Je pense que la priorité, c'est pas tant encore ça que le vieillissement de la population mondiale.
Oui,
quand on regarde ce qui se passe en Chine, hein, où le vieillissement va très vite, au Japon, donc il va falloir, il n'y a plus suffisamment de personnes pour pouvoir aider les populations, ce qu'on appelle la silver economy, hein,
ouais, c'est vrai.
Les personnes âgées. Et le robot a été poussé dans ces pays-là, justement, parce que c'est des tâches que ne veulent plus accomplir les humains, en fait, d'aller s'occuper d'une personne âgée, la lever de son bain le matin parce qu'elle n'arrive plus à s'extraire de son bain, par exemple, ou de son lit. Tout ça, ça demande en plus des efforts physiques. Un robot peut le faire. Alors après, pourrait le faire, on va dire.
Oui, il faut qu'il soit au point, parce que quand on parlait des démos truquées, il ne faut pas qu'il casse mamie, quand
c'est
même,
exactement.
Le robot.
Mais je pense que c'est ça, un des premiers marchés très, très rapides dans le robot domestique. Hein, parce
c'est
que
vrai.
On parle
mais
t'as raison, parce que...
Dernier mot, Guillaume, puis après...
C'est tout dernière semaine, on a vu effectivement des robots, alors qui sont en test, encore une fois, tout ça, c'est prudent... Mais à l'aéroport, dans un des aéroports de Tokyo, pour justement prendre les bagages et les faire se déplacer, etc. Donc effectivement, il y a cette problématique de main-d'œuvre et d'aide à la personne humaine.
Fascinant tout ça, on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a d'autres sujets à aborder. Mais vraiment, allez voir les vidéos si vous ne les avez pas vues et intéressez-vous à Genesis.
Oui.
Français, encore une fois, innovation française. Alors après, il allait monter sa boîte aux États-Unis. Il y a toutes les questions de financement derrière qui sont compliquées. Mais en tout cas, on a des chercheurs et des gens qui sont très, très intelligents dans le domaine de l'IA et de la robotique. C'est un ancien de chez Mistral, d'ailleurs, je crois.
Exactement.
On voulait parler des lunettes connectées. Alors, on parle souvent dans l'émission, évidemment. Mais là, ce n'était pas tant pour vous annoncer les prochains projets de Samsung ou d'Apple. Que pour réfléchir à l'aspect social de ces lunettes. Alors, c'est la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui est le gendarme du numérique en France, on va le dire comme ça, qui a publié un long article sur la menace, entre guillemets, que fait peser les lunettes, que font peser les lunettes connectées sur notre vie privée, en ajoutant, avec la prolifération, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus maintenant dans l'espace public, une sorte d'objet... d'espionnage qui permet à n'importe qui de filmer n'importe qui sans le consentement de la personne en face d'elle. Il y a un vrai danger de ce point de vue-là. C'était nécessaire de s'emparer de ce sujet-là, à ton avis, Emmanuel ?
Ben, je pense que oui, il y a un vrai sujet parce qu'ils ont fait un sondage. Et effectivement, dans ce sondage, les Français ont répondu qu'ils étaient inquiets de l'intrusion de ces technologies-là dans leur vie privée, dans leur sphère privée. Je crois que c'était de l'ordre de plus de 60% où ils étaient très inquiets en se demandant « mais qui est-ce qui me prend en photo ? Quand ? Pourquoi ? Dans quel but ? etc. » Ou me filme via ces lunettes. Parce qu'aujourd'hui, on peut déjà le faire avec un smartphone, mais si je vous tends le smartphone devant vous, assez vite, vous allez me dire bah, « tu baisses ton truc, oui. Je ne veux pas être pris en photo », etc. Là, les lunettes, vous voyez pas, enfin, on peut voir quand elles sont activées, en tout cas pour les Ray-Ban, puisqu'il y a une petite lumière qui s'allume. Donc, on est alerté en fait qu'elles sont actives. Bon, déjà, ça, c'est un premier point, puisque voilà. Mais il n'y a pas de recueil du consentement, ce que tu disais précédemment, Anthony, et ce qui est aujourd'hui inscrit dans la loi. C'est-à-dire qu'il faut le consentement des gens. Donc, et de toute façon, si vous ne l'avez pas, c'est puni par la loi. Ça, c'est le cadre légal. Donc, la CNIL rappelle le cadre. Le cadre existe. Après, et c'est là où devient, où toute la difficulté commence à apparaître, c'est comment tu le fais respecter, ce cadre légal. Ouais. Parce que quelqu'un qui te filme, tu vas dire bah non, arrête de me filmer, sinon tu as une amende.
Non, ça marche pas.
Ça marche pas.
Je pense que aussi les usages ont changé. C'est-à-dire que tu t'imagines quelqu'un qui est en train de faire son footing avec ses Ray-Ban Meta, qui est en train de scanner la foule, et en train de faire ses commentaires avant, pour le publier sur les réseaux sociaux. Il va pas s'arrêter pour demander le consentement de toutes les personnes qui croient.
Ça
n'arrivera pas.
Mais cela dit, et puis ça survient, je pense, à un moment aussi où, je sais pas si vous aviez noté, il y avait cette start-up qui devait lancer ce petit compagnon, la Friends.
Ah oui.
Il y avait les affiches partout dans le métro.
Un pendentif, c'est ça. Hein.
Ouais, c'est ça, un pendentif, donc doté d'intelligence artificielle qu'on se mettait autour du cou.
Et tu vois qu'ils affichent, c'était...
Voilà, ça sera votre meilleur ami.
Oui.
Et il était censé enregistrer tout.
Ouais.
Et en enregistrant tout, c'est-à-dire vos conversations, les personnes que vous... Même vos réflexions à voix haute que vous pouviez avoir. Par exemple, Guillaume se parle souvent à voix haute. Du coup, ça enregistre automatiquement
toutes vos
réflexions.
Je rigole, mais moi, je le fais tout le temps. Donc ouais, c'est... Ouais.
Et du coup, en tirer après des enseignements. Et ça devait être commercialisé, ça, là. Et ça a été stoppé. Parce qu'effectivement, il faut demander le consentement. Et alors là, c'est impossible de demander le consentement auprès d'un collier qui est connecté tout le temps, allumé tout le temps, dont le micro est allumé tout le temps. Et en plus, c'était même pas signalé, contrairement au Ray-Ban où là, il y a une signalisation. Donc, tout ça arrive dans un contexte où, certes, on parle des lunettes, mais derrière, il y a plein de terminaux qui vont arriver, qui vont avoir les mêmes fonctionnalités d'intelligence artificielle et qui vont se démultiplier. Là, on voyait le pendentif, mais ça pourrait être demain des bracelets ou d'autres choses comme ça. Donc, c'était important pour la CNIL de remettre les choses au plat.
Mais on n'est pas dans le running gag de, en gros, la Silicon Valley innove et puis l'Europe régule, c'est ça, et essaye de rattraper une fois qu'on voit les usages qui se développent, on dit ah bah non, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Il y a toujours ce truc, cette partition des rôles. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils se posent pas du tout ces questions et ils s'en portent pas forcément plus.
Ouais, alors c'est sûr, mais là, ça, c'est pas une innovation uniquement américaine. On voit bien que Meta, dans ses lunettes, alors ils ont fait un partenariat avec Essilor Luxottica. Il s'appuie sur
italien, du coup.
Voilà, franco-italien, exactement. Donc il s'appuie sur Ray-Ban. Il y a d'autres marques, Oakley, hein, pour les sportifs. Et c'est assez fascinant. Moi, j'ai pu tester lorsque vous courez, lorsque vous faites du vélo, vous pouvez immortaliser, faire des petites vidéos, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire que les lunettes, elles sont succès de leur innovation technologique. C'est-à-dire, moi, je me suis surpris il y a moins d'un mois. J'étais en train de déjeuner. C'était un déjeuner à trois. Et c'est seulement à la fin du déjeuner qu'un des convives m'a montré que c'était des Ray-Ban Meta. C'est-à-dire que je connaissais le produit, mais c'est tellement bien fait. C'est que pendant la conversation, je l'avais tout simplement oublié. Alors, encore une fois, c'est très pratique pour écouter de la musique, pour s'orienter dans la ville, etc. Mais vous vous souvenez l'échec cuisant qu'avaient eu les Google Glass parce que lorsque une personne qui les mettait arrivait dans un casino, effectivement, tout le monde se sentait un petit peu heurté. Aujourd'hui, c'est beaucoup...
On les surnommait aux États-Unis, vous vous souvenez, il y avait un petit surnom pour les porteurs de Google Glass. On les appelait les Glass Holes.
Ouais.
Glace et assholes, je ne vais pas traduire, mais enfin, on a compris.
Ouais.
Et ouais, parce que mais à l'époque, c'était un peu différent dans le sens où les Google Glass, déjà, ne ressemblaient pas du tout à des lunettes.
C'est ça. Oui.
On avait l'air d'un cyborg avec.
On
n'était pas du tout au même niveau. Et je pense
mais c'est ça, c'est miniaturisation, nouveaux services, tu vois, les accords avec Spotify, Deezer, etc. Et puis, avec les fabricants de lunettes, c'est-à-dire que là, ce sont de vraies paires de lunettes. D'ailleurs, ça cartonne. Hein, les opticiens disent, on en vend beaucoup. Donc,
ils sortent leur propre paire de lunettes connectées maintenant, les opticiens.
Exactement. Et puis, sans parler d'un petit aspect, je me permets de le dire parce qu'on vient de parler des robots humanoïdes, mais certains disent qu'il faut apprendre des gestes aux robots, mais que toutes les données du monde, les fameux world models, vous savez, de représentation du monde qui pourraient être la future phase de l'intelligence artificielle, elles pourraient s'appuyer en partie sur les données récoltées grâce à ces lunettes, un petit peu comme on avait des voitures Google qui anticipait l'arrivée des voitures autonomes. Ici, toutes les données du monde physique, le physical AI, peuvent être captées par ces données. Donc, tout ça, ce sont des...
Ah, pour entraîner les robots, après.
Exactement,
ah,
pour entraîner des robots, pour permettre, effectivement, l'intelligence une partie de l'intelligence artificielle du futur. Donc, ce sont de vrais bijoux technologiques. Mais effectivement, moi, à la fin du déjeuner, ça m'a amusé. Mais tu te sens quand même un petit peu... tu te dis, mais tu aurais pu me le dire au début, quoi.
Ouais, puis il y a un argument qui est mis en avant par la CNIL que je trouve intéressant, j'y avais pas pensé non plus. Ils disent, en fait, dans un monde où ces lunettes vont se démocratiser, où tout le monde en portera, ce qu'imaginent certains, Mark Zuckerberg, il dit, c'est le prochain smartphone, c'est nos lunettes. Bon, et ben en fait, ça va générer une forme d'autocensure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais que tu peux être filmé à tout moment par des gens avec des lunettes autour de toi, tu vas modifier ton comportement. Et ça, c'est vrai que tu dis, enfin, ça a quand même un impact important sur la société. Ça, c'est un truc auquel j'avais pas pensé.
Sans parler, mais ça, c'est labo, mais ça va peut-être prendre des dizaines d'années, tant mieux, mais des lentilles connectées. C'est-à-dire que là, encore, on a des lunettes et les lentilles, on verra rien du tout.
Ouais, et puis alors, après, alors t'as raison, il y a les lentilles, puis je pense, moi, aux fonctionnalités qui vont venir après et qui sont peut-être plus flippantes que simplement le fait de pouvoir filmer les gens, c'est le fait de pouvoir les identifier avec de la reconnaissance faciale embarquée. On sait que Meta travaille dessus, par exemple.
Il y avait eu cette expérimentation de chercheurs, de universitaires, je ne sais plus si c'est MIT ou Stanford, où en fait ils avaient croisé les prouesses de ces lunettes connectées avec des banques de données, par exemple Facebook et Instagram, et effectivement ils arrivaient à reconnaître, ou encore Clearview, vous savez, cette banque de données mondiale un petit peu illégale d'ailleurs,
PMIs, ils avaient utilisé,
voilà, exactement. Ils arrivaient à retrouver pas mal de gens qu'ils avaient croisés dans le métro ou dans la rue.
Incroyable. Alors là, on va avoir des problèmes, c'est même pas des problèmes de vie privée, c'est des problèmes de sécurité. Enfin, tu vas pouvoir stalker n'importe qui dans la rue, là ça commence à être problématique.
Mais c'est vrai qu'on va très loin, alors que ces mêmes lunettes peuvent être très utiles pour des personnes handicapées, par exemple.
Exactement. Il y a aussi ça. Non, mais les cas d'usage vont être intéressants à observer, et on va voir, parce que de toute façon on va avoir une avalanche de produits, là pour l'instant Meta se taille la part du lion, mais on sait très bien que Samsung, Google vont y aller, Apple aussi, peut-être un peu plus moyen terme, on va le dire comme ça. Donc on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Alors effectivement, il va falloir se méfier des lunettes, mais il faut aussi se méfier visiblement des écouteurs, ça si on s'y attendait pas. Mais il va aussi y avoir des caméras dans les futures générations d'AirPods. C'est ce que dit Mark Gurman. Alors Mark Gurman, à part Emmanuel et Guillaume, c'est sûrement le journaliste le mieux informé au monde sur Apple. Il a quand même des infos assez bien sourcées en général, et visiblement, ce n'est pas juste du prototype, on est en phase assez avancée de développement.
Oui, exactement, c'est ce qu'il dit, les productions ont recommencé. Et la question, c'est de savoir à quoi ça sert, justement, d'avoir des capteurs, ce type de capteurs dans des AirPods. Alors, en fait, c'est pour aider l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle, pour être... pertinente dans ses réponses, elle a besoin de ce qu'on appelle le contexte. C'est-à-dire quand vous lui posez une question, elle a besoin de savoir, pour affiner sa réponse, de savoir dans quel contexte vous vous trouvez. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais chez Google à San Francisco, ils nous avaient fait tester il y a très longtemps leur système d'intelligence artificielle. Et quand vous vous retrouviez devant le pont, le célèbre pont de San Francisco, vous pouviez poser la question « mais de quand date-t-il » sans dire « le pont ». Et là, comme le téléphone vous avait géolocalisé, il savait où vous étiez. Donc, il connaissait le contexte de votre localisation. Et quand vous disiez de quand date-t-il, il se doutait que c'était le pont. Et donc, il répondait automatiquement, le pont a été créé, alors qu'on n'avait pas dit quel pont, quel endroit, etc. Okay. Donc, c'est ça le contexte. Et là, l'objectif de l'intégrer dans les AirPods, c'est de rendre l'IA beaucoup plus pertinente avec ces éléments de contexte, parce qu'elle pourra filmer des éléments autour de vous, permettant de savoir où vous êtes et quel type de requête vous faites, qui sera lié à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Je ne sais pas si j'ai été très...
Ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur le fait d'entraîner les IA aussi, récoltant de la data autour de toi.
Exactement, c'est les données d'environnement spatial, c'est effectivement énormément de contexte, comme tu dis, c'est exactement ça. Alors, d'après les rumeurs, je ne sais pas si ça ira jusqu'au bout, mais Mark Gurman et autres, Apple intégrerait une micro-LED externe sur l'écouteur pour que là aussi, on prévienne l'entourage que que certaines données sont récoltées. Voilà.
Quand tu te balades dans la rue, il faut regarder. Attends, les lunettes, est-ce qu'il y a une lumière? Alors, les oreilles, est-ce qu'il y a une lumière qui sort de l'oreille? Bon, ça va, il ne me filme pas, je peux avancer. Ça va devenir redoutable. Alors, on dit c'est 2027, c'est ça date de sortie, a priori. Grosse année pour Apple, on sera les 20 ans de l'iPhone, donc on peut s'attendre à quelques nouveautés de ce côté-là.
Moi, que je me pose, c'est que Apple, pour l'instant, on parlait de Facebook et des lunettes connectées. Facebook, depuis le début, leur réputation, c'est... votre vie privée, j'en ai à peu près rien à faire. Je prends tout ce que vous me donnez, je l'utilise, et puis après, je m'excuse si à un moment donné, je me fais prendre la main dans le pot de confiture. Ouais. Bon, ça, c'est positionnement Meta, Zuckerberg. De l'autre, vous aviez Apple qui avait le positionnement diamétralement opposé quand même. De dire, moi, je protège votre vie privée, ce qui est dans votre iPhone reste dans votre iPhone. Quand vous mettez votre, la reconnaissance de vos empreintes digitales, on ne l'envoie pas, ça reste dans l'iPhone. Nous, on protège votre vie privée. Et là, avec ces AirPods, si ça se confirme, avec ces caméras dans les AirPods, ils arrivent un petit peu sur le terrain de Meta. Alors, est-ce qu'ils ont, en termes de marketing et d'image, est-ce qu'ils vont réussir à continuer à se positionner en tant que protecteur de la vie privée de ses utilisateurs?
C'est, ouais, voilà, c'est compliqué. Moi, je me suis posé la même question que toi, exactement. Mais je pense que là, ils sont un peu aux abois aussi sur les questions d'IA. Il faut qu'ils y aillent, quoi, d'une manière ou d'une autre.
Ils ont la pression des marchés financiers.
Ils ont la pression des marchés. On voit bien que c'est compliqué. On en parlait il y a une semaine ou deux. Là, ils ont envoyé, vous avez vu ça, là, tous leurs ingénieurs IA en bootcamp pour faire une sorte de rattrapage sur l'IA parce que ils sont. Enfin, c'est quand même. T'imagines, t'es ingénieur IA chez Apple, on te dit non, mais là, mon gars, faut aller faire le bootcamp parce que vous êtes pas au niveau. C'est quand même assez rude. Donc, je pense que s'il y a vraiment cette logique là aussi derrière. Donc, on va voir ce que ça donne dans les annonces qui vont être réalisées dans les mois qui viennent. Alors je voulais qu'on parle, puisqu'on est dans l'intelligence artificielle, de ChatGPT. Vous avez vu ça, le billet de blog de ChatGPT qui nous surveille entre guillemets et de la façon, ouais, dont il scanne tous nos messages. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, c'est passé un petit peu inaperçu. C'est nos confrères des numériques. En tout cas, moi, je l'ai découvert par leur biais, qui ont découvert ce billet de blog un peu passé sous les radars où OpenAI explique de manière très, très transparente, pour le coup, comment toutes les conversations qu'on a avec l'IA sont scannées, analysées, pour essayer de déterminer si vous êtes dangereux, si il ne faut pas vous balancer à la police parce que vous risquez de commettre un attentat ou de commettre un suicide. J'ai trouvé ça intéressant, opération de transparence, en même temps un peu flippant de se dire que le psy virtuel avec lequel vous discutez, en fait, il prend des notes et puis c'est balancé, peut-être d'ailleurs à des humains qui peuvent analyser les conversations.
Oui, mais c'est un peu, j'ai envie de dire, aussi un peu symptomatique. Manuel, il rappelait un peu la différence qu'il y a de philosophie, en tout cas, de Facebook, Meta versus Apple. On a un peu, je trouve, une grosse différence aussi de comportement face aux avancées technologiques. On le voit aussi à travers les commentaires de Ilya Sutskever, qui a longtemps été le directeur scientifique d'OpenAI en ce moment. Entre OpenAI, la maison mère de ChatGPT, et Anthropic, la maison mère de Claude. Alors, on peut reprocher énormément de choses à Anthropic, d'être peut-être pompier pyromane,
très alarmiste.
Voilà, très alarmiste, mettre à la fois au point les meilleurs outils, puis en même temps d'être le plus inquiet. Mais ils ont quand même doté Claude d'une constitution, avec une constitution alors qu'on peut discuter.
Vas-y, explique ça, la constitution, parce que c'est intéressant.
C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on se souvient des lois de la robotique de Isaac Asimov. Alors, on est dans les années 40, où on demande, Isaac Asimov imagine des lois à partir desquelles le robot ne devra pas se retourner contre l'homme. Et là, la constitution d'Anthropic, de Claude, c'est de fixer des limites à Claude, donc le robot conversationnel, pour qu'il n'aille pas trop vers, par exemple, la flagornerie, le fait de vous dire exactement ce que vous voulez entendre, ouais, alors qu'un bon ami, un bon compagnon, une bonne compagne, de temps en temps, elle vous engueule, elle dit là, tu dis n'importe quoi, etc.
En fait, il y a un jeu de valeurs humaines, et voilà, à chaque fois que tu t'adresses à Claude, il doit, avant de te répondre, il doit prendre en compte ce jeu de valeurs-là.
Voilà, et c'est incarné par une philosophe qui s'appelle Amanda Haskell, une philosophe écossaise, qui cite, lorsque vous lui parlez, Aristote, David Hume. Donc, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une grille de lecture. Encore une fois, on peut totalement critiquer, parce que par définition, c'est discutable. Et OpenAI, on voit qu'ils n'ont pas véritablement eu cette réflexion, que là, ils se disent, ben, on fait ça pour des bonnes raisons. On se demande si c'est pas aussi à des fins publicitaires, parce qu'on sait qu'un des buts d'OpenAI, qui n'arrive pas à gagner d'argent avec tout l'argent qui est englouti dans leur data center, dans leur puissance de calcul, va un jour, enfin en tout cas réfléchit à intégrer de la publicité dans ChatGPT. Donc on se demande si c'est pas aussi à ces fins qu'ils nous espionnent, j'ai envie de dire, en tout cas qu'ils nous surveillent. Mais effectivement, en tout cas, les raisons qui sont évoquées dans ce blog, et c'est ça qui peut faire peur, c'est de dire, on veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement, mais on a un peu l'impression que c'est là aussi, ils agissent peut-être a posteriori, c'est-à-dire qu'on peut bien sûr avoir des comportements, des discussions très dangereuses, et
moi,
c'est ça que OpenAI veut
aussi. Alors, c'est la première fois qu'on cite Aristote et David Hume dans cette émission. Enfin, là, on a quand même,
on a
monté
là.
Un niveau, hein, c'est pas
le
mal.
Point,
ouais. Ah ouais, là, c'est le point. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai perdu ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Mais en gros,
peut-être une petite incise. Pour moi, c'est pas hyper neuf, parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y a un certain temps, je reviens aux assistants personnels,
ouais.
Notamment le Echo d'Amazon.
Oui.
Vous vous souvenez qu'il y avait un couple qui se disputait et ça commençait à monter,
tout à fait.
Avec une crainte que le mari s'en prenne à sa femme. Et derrière, il y avait un opérateur humain qui a entendu la conversation et il l'a donné aux forces de l'ordre qui ont débarqué chez le couple et qui ont arrêté la dispute.
Ouais, exactement. Alors,
ça ne serait peut-être pas arrivé jusqu'au bout, mais en tout cas, il y avait un risque potentiel. Donc, c'était le même système. Hein, c'est-à-dire qu'en réalité, ils écoutaient ce qui se passait chez vous. Ouais. Et s'il y avait un problème, là, en l'occurrence, un meurtre potentiel, ou en tout cas... voilà,
je
ils ont fait intervenir le France.
C'est ça, mais je pense, ça rejoint ce que j'essaie de retrouver ce que je voulais dire. Je pense qu'ils font ça aussi pour se blinder juridiquement, pour éviter des gros procès. Parce qu'il y a eu des cas récemment, il y a eu, pardon, c'est un peu glauque, hein, mais il y a eu une tuerie au Canada notamment, où ChatGPT avait utilisé en amont pour une discussion avec ChatGPT. Et Sam Altman a dû s'excuser publiquement parce que, en fait, il y a des familles qui ont attaqué en justice en disant, en fait, ils avaient détecté que le compte était dangereux, ils l'avaient suspendu, mais ils n'avaient pas prévenu les forces de l'ordre. Et on dit, si, en fait, c'est votre responsabilité en tant que plateforme de contacter les forces de l'ordre dans ces cas-là. Donc, il y a vraiment un sujet aussi d'éviter des milliards de dollars d'amende, probablement, sachant que c'est compliqué aussi, parce que, alors c'est ce qu'il disait, mais c'est une IA qui scanne tout ça et qui essaye de déterminer entre le mec qui dit comment fabriquer une bombe, qui veut vraiment fabriquer une bombe, et celui, un journaliste qui enquête sur le terrorisme, ou un écrivain, ou un mec qui veut pousser l'IA dans ses retranchements, c'est pas forcément facile non plus de faire la part des choses. D'où l'intervention d'ailleurs des modérateurs humains. On va s'arrêter là sur la partie IA. Il nous reste quelques petites minutes. Oui, je voulais quand même qu'on parle, qu'on fasse un peu de people. C'est pas souvent non plus dans l'émission.
Après Aristote.
Oui, après Aristote, on va passer d'Aristote à Dua Lipa. Écoutez, sans transition, effectivement. Alors, Dua Lipa, étonnant, qui attaque Samsung pour 15 millions de dollars de dommages et intérêts parce que sa tête apparaît sur les emballages de télé, c'est ça, Emmanuel ?
Exactement, aux États-Unis.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis, effectivement. Et Samsung s'est expliqué. Alors, elle considère effectivement que c'est une violation de son image. Donc, elle a attaqué directement la société sud-coréenne. De son côté, Samsung dit « Non, en fait, nous, on avait un prestataire. Et le prestataire, pour vendre justement un service de streaming gratuit sur la Samsung télé, son prestataire lui avait assuré avoir les droits sur cette image. Donc, eux disent « Nous, on l'a fait en étant de bonne foi.
Ouais. »
Et donc, ils vont opposer cet argument-là à celui de Dua Lipa. Donc, on va voir jusqu'où ça va aller. Bon, c'est marrant. Ça va probablement aussi doper. Pour l'instant, en plus, les ventes continuent avec cet emballage-là. Hein, et ça dope, les ventes.
Non, mais c'est ça. Moi, c'est ça qui me fait halluciner, en fait, le plus dans l'histoire. Parce que Dua Lipa, elle dit... L'un des arguments, c'est de dire... Oui. Parce que j'ai eu des fans qui m'ont dit... j'ai été trompé. J'ai acheté la télé. Mais qui achète une télé parce que tu vois la tête d'une personne que tu aimes bien dessus? La télé, tu l'achètes pour d'autres critères, a priori, pas parce que tu as la tête de Dua Lipa dessus. On est d'accord, Guillaume?
Pas tout à fait.
Non, mais en fait...
Si à la tête de Yann Lequin, j'achète la télé.
Non, ce qui me fait penser... ça me fait penser un tout petit peu... Alors, c'est un peu éloigné, mais à tous les débats sur la voix de Scarlett Johansson utilisée par OpenAI, la maison mère de ChatGPT, et donc il y a ce procès, etc., que je trouve très intéressant. Honnêtement, c'est vrai qu'une boîte d'emballage d'une télévision, c'est pas très sexy. Et c'est vrai que les images qu'on voit à l'écran, je dis pas que c'est absolument génial, mais c'est un peu plus sympa. Donc, je sais pas. Je trouve le procès intéressant.
Ouais.
Voilà.
Non, mais c'est marrant parce que. Mais alors, je crois
après, ça peut peut-être.
Parce qu'elle dit qu'elle les a prévenus et qu'ils ont pas enlevé sa tête. Parce que, c'est l'autre truc qui m'étonne. Alors Samsung, je doute pas de leur bonne foi, mais je me dis, Samsung vu la taille de la boîte, leur département juridique, ça doit être l'équivalent du ministère de la justice dans un petit pays. Donc, je pense qu'ils pouvaient juste se dire, ok, on enlève la tête de Dua Lipa et on met un papillon à la place ou j'en sais rien, ça aurait peut-être été moins bad buzz, ça va leur coûter moins cher, et bon bref, c'est étonnant cette histoire, étonnant.
Et ça va se finir par une transaction très probablement.
Ouais, probablement, ouais. Elle était pas maquée avec Apple, Dua Lipa, elle n'avait pas sorti des morceaux en exclusivité, non, ou peut-être je dis une bêtise.
Mais toi, ça t'a permis de réécouter un petit peu l'artiste
Exactement, grâce à toi.
Voilà.
Ouais, on avait dit qu'on voulait voir Guillaume danser, on va pas le faire danser en direct, mais... voilà, fan de Dua Lipa, je ne sais pas. Bon, bref. En tout cas, on va s'arrêter là, parce qu'on arrive déjà au bout du temps qui nous est imparti. On aurait pu discuter encore pendant des heures, mais vous reviendrez évidemment. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Emmanuel de l'informer. Merci beaucoup, Guillaume Dupont. Guillaume, tu restes avec nous parce que pour la petite pépite, je le disais, on va parler de ton entretien avec Yann Lequin, qui était extrêmement intéressant, de ta rencontre avec l'un des pionniers de l'intelligence artificielle. Ça, ce sera dans le module bonus. Et puis vous restez avec nous, évidemment, parce qu'on a la deuxième partie. On parlait des télés. Ne choisissez pas votre télé en fonction de Dua Lipa. Choisissez-la en fonction de Lionel Costa, qui va nous dire quels sont les bons specs à regarder, les bons benchmarks. On va en discuter dans quelques instants. A tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, Anthony Morel.
La deuxième partie de quoi je me mêle, on est ravis de vous retrouver évidemment. Et comme promis, on va parler télé. On est avec l'ami Lionel Costa. Salut Lionel.
Salut Anthony.
Le responsable du Labo Fnac. Alors on est, c'est vrai, à moins d'un mois de la Coupe du Monde de foot. Alors certains sont dans les starting blocks, d'autres s'en fichent royalement. Il n'y a pas de souci, mais on s'est dit que c'était le bon moment pour s'intéresser aux télés. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où beaucoup de gens réfléchissent à investir. Ils disent, bah voilà, je vais en profiter, avoir un bel écran pour pouvoir suivre les exploits de l'équipe de France. C'est souvent comme ça avant les grands événements sportifs. Et donc on voulait faire un petit benchmark avec toi de ce qu'il faut regarder quand on veut acheter une télé pour le sport ou pas forcément pour le sport, évidemment. Je rappelle avant, parce que toi, évidemment, tu testes tous les modèles, ouais. Le Labo Fnac, explique-nous un petit peu comment ça se passe quand vous recevez tous les modèles de télé, quel type de test vous leur faites passer. Et je rappelle avant toute chose, parce que c'est un truc qu'on revoit souvent dans les commentaires, quand on dit Labo Fnac, on dit ouais, mais attendez, ils ont un intérêt à nous vendre tel modèle plutôt que tel autre. C'est un organisme qui est autonome.
C'est, en fait, on appartient à la Fnac. Mais depuis 54 ans, l'identité et la mission du labo, c'est de tester les produits, de donner gratuitement les performances réelles des produits, en toute indépendance et du marketing, et du commerce, et évidemment des fabricants. Même si les fabricants aimeraient bien qu'on leur dise, qu'on dise « Ah, mon produit, c'est le meilleur », etc. Non, justement, on est totalement indépendant là-dessus. Et vraiment, enfin, je le répète à chaque fois, les gens qui s'intéressent un petit peu au contenu que le Labo Fnac peut créer, allez-y en profondeur. Il y a beaucoup d'influenceurs ou de gens qui vont parler de produits sans même avoir touché les choses. Nous, moi j'avoue ça, on en parle très peu. On n'est pas hyper, voilà, on n'a pas une audience extrêmement grande. Par contre, les tests que l'on fait, ils vont au fond des choses et on est reconnu dans le monde entier. C'est souvent d'ailleurs entre ingénieurs, que ce soit Séoul ou japonais ou enfin toute l'Asie, qui viennent nous rencontrer au labo. Donc on est situé à Massy-Palaiseau. Ils voient le niveau de technicité et de complexité de nos tests. C'est,
vous avez quoi, des instruments de torture pour faire passer les tests aux télés en
Ouais, je veux pas faire de complexe à ceux qui n'ont pas de niveau en physique, mais vraiment, on a tout ce qui est appareillage de métrologie de pointe, c'est-à-dire que des spectrophotomètres pour la partie colorimétrie, la partie luminance, on a des appareils qui nous permettent de faire des choses incroyables, type les vues angulaires, la directivité des écrans. On peut évidemment mesurer le niveau de noir. En fait, c'est tout bête, mais il y a beaucoup de sons d'utiliser dans la Prestec, entre autres, qui sont limités à, par exemple, 0,1 candela, c'est très faible. Bah, nos appareils de mesure peuvent aller encore plus loin. C'est-à-dire que si je fais un niveau de noir et que je me dis, il fait 0,1 candela, bah, en fait, si l'écran est un OLED, par exemple, et donc ça n'allume pas de lumière, c'est pas l'écran qui génère 0,1 candela, c'est l'appareil de mesure. Ça parle peut-être que pour les geeks et les gens un peu férus.
On va pas aller dans ce niveau de détail là aujourd'hui, mais c'est,
nous on fait ça.
En tout cas, vous faites le taf, vous testez tous les modèles. Et alors justement, quand on est dans les rayons, Fnac ou ailleurs, n'importe où, on est devant un mur de télé et franchement, on s'y perd un peu. Ouais. C'est quoi les specs, comme on dit, les caractéristiques à regarder en premier? Les trucs vraiment les plus importants aujourd'hui, au-delà de la taille de l'écran, parce que ça dépend de ton envie et de ton salon.
En fait, tu as pratiquement tout dit, en fait. Sur la partie taille d'écran, c'est pour le premier point de contact en fait, que les gens vont avoir. C'est quelle est la taille de l'écran et ce que je peux mettre chez moi. Ensuite, il y a la partie prix, évidemment que ça rentre dans le critère le plus important. Et souvent, une fois qu'on a ces deux éléments-là, il y a deux technologies qui se détachent. Il y a le LCD et l'OLED. Et là, je ne vais pas vous faire la litanie de toutes les sous-catégories techniques. Le WOLED, le WRGB OLED, le Tandem OLED, le QD OLED. Alors, je ne parle même pas du QLED, QNED, etc. Tout ça, c'est toujours deux sous-familles, c'est-à-dire deux familles principales. L'OLED et le LCD, qui n'ont pas du tout le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a un rétroéclairage, donc il y a besoin de plusieurs couches pour ensuite afficher de l'image, et l'OLED qui n'a pas besoin de rétroéclairage, donc qui est extrêmement fin, et c'est pour ça d'ailleurs que l'OLED, on peut le plier, enfin, ça peut être...
C'est en fonction de quoi du type de programme que tu veux regarder, en fonction de tes goûts personnels
Voilà, exactement. Ça, c'est pour avoir une qualité d'image qu'on veut être la meilleure possible. L'OLED est quand même un cran au-dessus par rapport au LCD aujourd'hui. Il est plus moderne, mais il est beaucoup plus cher aussi. C'est-à-dire qu'on a des prix à plus de 2000 euros facilement pour du 65 pouces, là où le LCD, on va être en dessous des 1000 euros. Et pourquoi je vais choisir un OLED plus qu'un LCD? C'est l'argument numéro un, ça reste le noir et le contraste. C'est si je veux regarder des séries télé, des trucs qui sont très dark, donc avec des zones d'ombre, etc. Si j'ai un LCD qui me fait des noirs un peu gris, un peu blanchâtre, bon, ça ne fait pas effet cinéma. Alors que l'OLED, lui, c'est du vraiment noir.
Ouais. Et alors, on parlait du foot, mais il y avait un des specs intéressants, c'est le taux de rafraîchissement aussi. Ouais. Alors ça, c'est qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est quoi le chiffre à avoir en tête?
Ah là là, et c'est l'enfer pour moi, parce que justement, nous, on se bat contre un petit peu le bullshit donné par certaines marques qui vont annoncer du 120 Hz, du 400 Hz, etc. Mais personne ne le mesure, personne ne le vérifie.
Ça change quoi, ça, concrètement?
C'est la vitesse à laquelle l'image va se rafraîchir sur l'écran. Plus ça va vite et moins l'œil va percevoir une sorte de saccade. C'est extrêmement faible, hein, puisque même à 60 Hz, l'œil, entre 60 et 90, on peut voir percevoir une différence, mais c'est déjà un petit peu, c'est un peu chaud comme différence. Sachant que la télé aujourd'hui, telle qu'elle est diffusée, on est autour des 25 images par seconde. Ouais. Donc on n'est même pas à 25 Hz. Et par contre, c'est vrai que si on a des fréquences qui annoncent du 200, du 240 ou du 300 Hz, c'est plutôt un bon signe dans la promesse. Est-ce que c'est la réalité? Ça, nous, on le mesure justement pour le vérifier.
Moi, c'est ce qui me frappe aussi dans les promesses marketing. Alors, c'est normal, c'est le jeu, parce que plus les années avancent, plus les technologies sont perfectionnées et plus, en fait, tu te dis quelle est la valeur ajoutée d'acheter une télé de 2026 par rapport à une télé de 2025. Est-ce que c'est si évident que ça, à l'œil nu? On avait parlé, et on va peut-être évacuer ce sujet-là maintenant, mais par exemple, des télés 8K, on en a beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup de hype, beaucoup de marketing autour de ça. Et il y a des études qui ont montré que, en fait, à l'œil nu, tu vois même pas la différence. C'est quasiment impossible, imperceptible.
Sauf si t'es collé à 30 cm de l'écran.
C'est en fait. Ça. C'est, d'autant qu'il n'y a pas de contenu, mais ça, c'est un autre sujet.
Exactement. Sur du jeu, on peut, par exemple, j'avais fait une démo sur Flight Simulator. En 8K, c'est impressionnant, mais par contre, il faut la machine qui tourne derrière. Et tu as des images photoréalistes où vraiment tu vois, tu ne sais pas si c'est une fenêtre que tu regardes ou un écran. Donc le 8K peut avoir un intérêt sur des usages hyper niches. Peut-être qu'on y reviendra. Moi, je pense plus que le 8K va être intéressant pour du multi-display, c'est-à-dire que sur un seul écran 8K, on peut afficher 4 contenus pur 4K natif.
Ah, ouais.
Ça peut être intéressant dans le futur, mais ça, on n'en est pas aujourd'hui.
On n'en est pas là.
Il y a très peu de références 8K.
Mais ce que tu disais tout à l'heure, moi ça me fait halluciner quand tu lis la liste des normes technologiques WOLED, WRGB OLED, QLED, QNED, NeoQLED, MiniLED, MicroLED, RGLED. Tu vois, moi je suis la tech, alors je ne suis pas un spécialiste télé, mais je suis la tech et je fais de la vieille technologie tous les jours. Mais même là, tu te dis, il faut avoir un doctorat en électronique pour choisir sa télé. Ça devient compliqué.
Et le pire, c'est qu'il y a du bon et du faux là-dedans, c'est qu'il y a des arguments qui sont complètement fallacieux et d'autres qui sont réels. Je pense principalement au mini LED, au micro LED. En fait, ils ont réussi sur la technologie, la technologie LCD, donc une vieille techno qu'on maîtrise parfaitement, qu'industriellement ils savent maîtriser les coûts, etc. Ils ont réussi à pallier le défaut qu'ont les LCD. Le LCD, c'est donc un rétroéclairage qui est tout le temps allumé, normalement, en blanc. Et puis ensuite, selon le passage du flux lumineux de différents filtres, on va avoir ou pas de la lumière qui passe, rouge, vert, bleu. Et bien là, ils arrivent à piloter de manière extrêmement précise le rétroéclairage là où il doit être allumé et là où il ne doit pas l'être. Ce qui fait qu'on n'a plus cet effet blanchâtre du noir qu'on devrait avoir noir absolu.
Okay.
Donc on est presque sur un OLED, mais à partir de LED qui sont l'ancienne techno. Donc il y a le mini LED et le micro LED sont vraiment les trucs qui sont sortis il y a 3 ans, je crois, en 2023, qui sont pour moi vraiment hyper intéressants à regarder de près.
Ok, alors on parlait de la différence entre les vraies révolutions technologiques et puis la hype marketing.
Il y a l'IA là-dedans.
Alors voilà, c'est à ça que je voulais en venir, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on met de l'IA absolument partout, à toutes les sauces. Ça devient le nouvel argument de vente et aussi une manière de commercialiser des appareils qui sont en moyenne plus chers. Quand on nous dit cette télé, il y a IA Insight, un GPU à l'intérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change concrètement?
Alors, des fois, il n'y a rien derrière. C'est juste un algo qui permet d'améliorer l'upscale. L'upscale, c'est si je mets un programme de qualité DVD et que je mets sur un 4K, la télé doit intelligemment créer les pixels qui n'existaient pas à l'origine.
Ouais.
Ça vient du machine learning, etc. Donc ça, c'est pas du vrai IA. Par contre, la vraie IA, c'est ce qui est en train de sortir, ce que sont en train de sortir les fabricants, et c'est hyper intéressant. C'est par exemple le live translate, la traduction instantanée. C'est-à-dire que même le sous-titrage automatique sur des programmes qui n'en ont pas forcément, sur de la télé. C'est-à-dire qu'on peut regarder un programme télé qui vient du Mexique, enfin espagnol ou n'importe quoi, ou polonais, et on va avoir une traduction. Et cette traduction ne va pas se faire via une base de données avec un fichier qui contient le sous-titre. Non, ça va écouter les paroles, et comprendre le contexte et diffuser exactement dans la bonne langue.
Ça marche déjà?
Ça marche déjà. Ouais. Alors, pas tous les pays, en fait, et pas toutes les langues. Ça marche très bien en anglais. En français, c'est pas encore actuel. Et il y a une marque coréenne. Je sais pas si je peux la citer. Bon, parce que, mais c'est une marque coréenne. Non, mais parce que je sais pas s'il y a un embargo sur cette innovation.
Ici, on parle de toutes les marques.
Mais oui, il y a une marque coréenne, en tout cas, qui nous a présenté ça. Et ça va arriver incessamment sous peu. Et c'est extrêmement impressionnant.
Et puis, l'IA, tu as la possibilité aussi. Enfin, la télé devient plus intelligente. C'est-à-dire qu'elle est capable de savoir ce que tu es en train de regarder, d'adapter la luminosité. Quand tu regardes un film d'horreur ou un match de foot, c'est pas du tout la même chose, et les conditions dans lesquelles tu vas les regarder vont être différentes aussi.
Les gens qui ont été dans des menus télé savent à quel point il y a plein de profils différents, cinéma, jour, sport, gaming, domicile, enfin il y a plein de filmmakers aussi, plein de modes différents, et comment bien choisir le bon programme selon ce qu'on voit. Si je change de chaîne, je vais pas changer mes paramètres de télé. Et ben maintenant, ils ont de plus en plus les produits haut de gamme intègrent une IA détection qui va adapter le contraste, la luminosité, la saturation, tout ce qui est traitement même d'image et de bruit et de netteté automatiquement selon le contenu comme étant interprété. Et là, on reboucle sur le sport et le foot. Le foot, c'est terrible pour une télé. C'est un aplat vert, la pelouse, dans lequel il y a des petits détails qui se déplacent et qui se baladent. Ici, on a une colorimétrie beaucoup trop saturée. Bah, en fait, le ballon bave, le joueur bave. Enfin, c'est vraiment infernal. Et si on règle la couleur un peu moins saturée, eh ben ça marche mieux.
Ouais, c'est ça. Alors l'IA, il y a un dernier point. Je ne sais pas si elles sont sorties, parce que celles-là, je me souviens que je les avais vues typiquement au CES de Las Vegas. C'était des télés où, en fait, sur la télécommande, maintenant, il y a un bouton IA et tu peux parler à la télé pour lui demander voilà quel programme tu me conseilles. Il va aller chercher sur les plateformes de streaming. Et en fait, en fonction des critères que tu lui donnes, il va te trouver le bon programme au bon moment. Ça, je trouvais que c'était intéressant, tu vois, parce que tu as le syndrome Netflix où tu passes plus de temps à chercher la série qu'à regarder la série globalement. Là, ça fait partie aussi des fonctionnalités IA de ces télés.
Oui, oui, mais après, c'est du multi-service à mort, parce que là, c'est vrai qu'une télé, tu peux avoir Molotov TV, Netflix, Disney+, Prime, etc. Et là, si tu te retrouves à te dire, j'aimerais regarder un film avec Hugh Grant, par exemple, il va te proposer toutes les plateformes qui le proposent. Mais si tu n'es pas abonné à ces plateformes-là, tu es sur une voie sans issue. En fait, tu vas te retrouver, qu'est-ce que je fais ? Donc, c'est vrai que cette expérience-là, elle est hyper intéressante parce que ça évite d'avoir à jongler à travers différentes interfaces. Mais ça veut dire quand même qu'il faut que tu sois déjà connecté à toutes ces interfaces-là pour que ça soit efficace jusqu'au bout. Voilà. Donc non, mais je suis pas du tout un IA-phobe. Au contraire, hein, je trouve que c'est un outil qui est fantastique, qui peut être vraiment super bien utilisé. Et les marques de télé arrivent à intégrer de plus en plus et de manière de plus en plus pertinente dans leurs produits des choses qui sont vraiment de l'IA.
Il nous reste 3 minutes pour faire un petit benchmark. Ouais, ça va être rapide, mais voilà, parce qu'évidemment, une fois qu'on a donné tous ces conseils, on voudrait aller sur des choses très pratico-pratiques, sur les meilleures télés avec différentes catégories, parce que ça dépend évidemment de plein de choses, des budgets. Alors, tu nous as fait les meilleures télés 65 pouces, c'est quoi ? C'est le modèle standard, on va dire ?
Aujourd'hui, la norme des télés, de la taille des télés aujourd'hui, c'est 65 pouces que les gens achètent le plus.
Bon. Alors, dis-nous les recommandations.
Il y a les trois grandes marques, hein, LG, Samsung, Sony. La première, LG OLED, la G5 à 2099 €. Il y a le G6 qui est en train de sortir, qui est à peu près dans ces prix-là. Je conseille aux gens de passer à la G6 tout de suite s'ils le peuvent. Ensuite, il y a la Samsung TQ 65S90F.
Il faut qu'ils changent les noms, il faut qu'ils bossent sur les noms, hein, parce que c'est pas possible.
F comme François, il faut vraiment dire. elle n'est que de 2025, elle est à 1599.
Okay.
Donc on a 500 € par rapport à la LG. Et on a la Sony Bravia 8, deuxième génération, qui est à 2199 €.
Okay.
Donc ces trois télés-là, c'est des bangers, c'est des trucs, on se perd.
Ça, c'est OLED aussi ?
Les trois, là, c'est OLED.
Ça, c'est que du OLED. Ouais. C'est pour ça que les prix sont assez élevés, évidemment, entre 1600 et un peu plus de 2000 €.
C'est ça.
Alors ensuite, budget, les meilleures télés à moins de 1000 €.
Ouais, à moins de 1000 €, mais toujours sur 65 pouces au niveau de la taille. On a une TCL 65C89K65. J'espère que si les gens vous regardent sur le replay, tu auras la référence. Ça, c'est du mini LED, typiquement. Okay. Mini LED qui a obtenu donc un 5 étoiles. Donc autant qu'une OLED. Elle est à 999 €. Ouais. Donc moins de 1000 €. Et on a la Xiaomi A Pro. Alors moi, j'ai Xiaomi.
Xiaomi. On dit Xiaomi.
A Pro 65. Elle est en dessous des 600 €. Ouais. Donc c'est vraiment pour les petits budgets, ça peut être assez intéressant. À 4 étoiles, elle seulement.
Donc là, deux marques chinoises, hein, pour le coup.
Exactement. Et ensuite, j'ai voulu mettre une 55 pouces à moins de 500 € pour vraiment les petits budgets. C'est encore une TCL. TCL est vraiment fort, justement, sur le rapport qualité-prix. C'est le TCL 55C655 Pro X1. pardon, okay, à 449 euros. Voilà.
Bon, voilà, on vous remettra toutes les références, mais au moins, là, vous avez un panel assez, assez important pour pouvoir vous décider, quel que soit votre budget et vos...
Vos envies, tout simplement.
Ouais, ça. Alors, tu m'as mis, dans les nouveautés 2026, tu as le traitement anti-reflet sur les télés. Alors, ça, je ne connaissais pas. Je connaissais pour les lunettes, mais pour les télés, je ne connaissais pas.
Et même sur les smartphones. En fait, avant, on considérait qu'une dalle brillante, c'était génial. Sauf que la dalle brillante fait que ça brille et ça reflète tout. Donc, si tu as une fenêtre derrière toi, tu regardes ton programme, tu vois le reflet de ta fenêtre sur la télé. Et bien, maintenant, les marques, toutes les marques majeures, font des dalles à traitement anti-reflet, ce qui fait que quand tu mets même une lampe torche dessus, tu arrives à absorber 60-70% de la lumière.
Ah ouais. Donc mais tu pourrais les mettre en extérieur même quasiment en fait. Il y a des modèles en extérieur. Hein,
ceux qui sont extérieurs sont souvent de mauvaise qualité parce qu'en fait les traitements de dalles qui sont là pour rendre étanche, enfin pour être protégé de la pluie, etc., font que l'image elle est vraiment dégradée. Ça a une image floue, enfin qui est vraiment pas belle. Et bien là, les traitements se font autrement et c'est vraiment qualité.
Okay.
C'est vraiment
intéressant,
là où avant, La mode, c'était le brillant. Là, maintenant, c'est marche arrière. Et en fait, on trouve ça très, très beau.
Bon, on vous l'avait dit. Je ne sais pas si tu as entendu la première partie de l'émission. On disait qu'il y a des gens qui achetaient la télé parce qu'il y avait la tête de Dua Lipa dessus, les fans de Dua Lipa. Ouais. Et je disais, il y a peut-être des critères plus intéressants pour investir dans un objet qui va quand même rester chez toi quelques années.
Chacun est libre.
Chacun est libre, tout à fait. Chacun a choisi ses critères. Mais là, on vous en a donné quelques-uns. Donc maintenant, c'est à vous de faire votre choix. En tout cas, merci beaucoup à toi, Lionel, pour tous ces conseils.
Merci, Anthony.
Lionel Costa du Labo Fnac, qu'on retrouve régulièrement, évidemment, dans des QGMM. Merci beaucoup à tous pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivi le hashtag DQJMM, vraiment, donnez-nous des commentaires, on prend tout ce que vous pouvez nous donner, on est toujours très intéressés et puis on se retrouve dès la semaine prochaine, ce sera François qui reprendra la place du chef, évidemment. Merci à tous et à très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.